Notre invité du matin, c'est Milakulo Tukumuli, le président réélu de l'éveil océanien. Bonjour.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'avoir accepté notre invitation quelques jours après votre congrès qui s'est tenu à Païta. La présidence, c'était une simple formalité, vous étiez le seul candidat, pas de surprise?
Disons que le comité directeur, qui est l'organe décisionnel du mouvement, à l'unanimité, ont renouvelé leur confiance pour ce congrès. Et donc, sans surprise, l'Assemblée générale du mouvement, qui s'est réunie ce samedi, à l'unanimité, ont accepté de me reconduire à la présidence du mouvement. C'est une très lourde et très grande responsabilité qu'il faut prendre avec beaucoup d'humilité, surtout dans le contexte particulier que vit la Nouvelle-Calédonie, où on n'a pas trouvé encore de solution politique pour la sortie de l'accord de Nouméa.
Ce congrès, autrement, globalement, il s'est bien passé. Il y avait beaucoup de gens, vous étiez content.
Écoutez, beaucoup de surprises, de nouveaux adhérents au nombre qui sont arrivés. On avait 600 personnes, dont 200 personnes qui étaient dehors et qui n'arrivaient plus à trouver de place au sein du doc socioculturel de Païta. Donc c'est une très belle réussite pour nous. Nous avons passé 2 heures à faire un peu de pédagogie sur le conclave et sur la situation politique et sur les intentions des partenaires politiques calédoniens. Au conclave de Deva, lorsque le ministre d'État était avec nous il y a 2 semaines.
Alors justement, ce conclave de Deva, est-ce que vous avez été surpris par la proposition mise sur la table par Manuel Valls? On parle d'une proposition qui s'apparente à une indépendance d'association. Est-ce que c'est comme ça que vous l'interprétez?
Bon, je crois que je me dois d'abord d'être tout à fait honnête en disant que Valls a proposé au conclave de Deva 3 projets. Premier projet, c'est la souveraineté avec la France. Et le ministre l'a dit, l'a répété, même publiquement, que c'était le projet que le gouvernement défendait. Deuxième projet qui est proposé, c'est le projet des non-indépendantistes. C'est l'État fédéré. Et puis la troisième solution qui reste, c'était l'avenant à l'accord de Nouméa. Alors nous, l'éveil océanien, depuis la 3e consultation, je rappelle que nous, à la question qui était posée, nous n'avons pas répondu ni oui ni non, nous avons répondu par non, pas maintenant, ce qui se traduit par oui, mais pas maintenant. Donc nous, on a appelé ça le partenariat programmé, parce que il faut respecter le choix des Calédoniens qui se sont exprimés 3 fois pour que la Calédonie reste au sein de la République française. Pour autant, on sait que l'accord de Nouméa est terminé, mais que la décolonisation, à notre sens, n'est pas encore terminée. Et donc, elle devra se poursuivre. Et qu'au lieu de mettre les Calédoniens les uns en face des autres, on proposait un projet de partenariat programmé, et donc de souveraineté avec la France en 2053.
Alors, 3 projets pour l'instant. Enfin, le ministre, lui, n'en a parlé que 2 publiquement, dont un qu'il défend, qu'il porte, celui de la souveraineté avec la France, qui s'apparente donc à une indépendance association, et celui des loyalistes et du Rassemblement, dont il a dit que c'était un projet de partition. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces 2 projets? Et est-ce qu'ils sont encore sur la table aujourd'hui, ou est-ce que, selon vous, ils ont été refusés de toute façon?
Je crois qu'à la sortie du conclave, Valls a été pisanier par les non-indépendantistes et le Rassemblement. Et j'utilise ce terme à dessein parce que Valls propose aujourd'hui une solution qui a déjà été proposée aux Calédoniens en 1985 par Edgar Pisani. Donc en quelque sorte, les non-indépendantistes ont enterré le projet de souveraineté avec la France. Qui soutient la souveraineté avec la France? Mais nous, on soutient le FLNKS aussi, même si ce n'est pas sa position traditionnelle. Ils ont fait un pas de la souveraineté pleine et entière vers une souveraineté avec la France. Et bien sûr, l'Uni Palika qui est sur ce projet.
Et Calédonie Ensemble.
Calédonie Ensemble aussi qui est favorable. Sur maintenant l'État fédéré, pour être honnête, je crois qu'il y a plusieurs types de fédéralisme que les non-indépendantistes ont proposé. D'abord en janvier 2024, c'est le fédéralisme au sens simple. C'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie est un État au sein de l'État français, ça veut dire que la France devient un État fédéral dont la Nouvelle-Calédonie est l'État fédéré, Ça, c'est la version 1. Tu as la version 2 qui est le double fédéralisme, c'est-à-dire que les provinces auraient beaucoup plus de compétences qu'elles n'ont aujourd'hui. Donc on aurait un État fédéral qui est la France, l'État fédéré qui est la Nouvelle-Calédonie, et on aurait des provinces qui seraient un peu en autarcie. Et puis enfin, il y a la troisième proposition, qui est la solution de repli, comme eux ils l'appellent, qui est cette souveraineté différenciée, qui est la province sud est un État fédéré au sein de la République française, et puis la province nord et la province des îles sont des États associés. Donc en d'autres termes, c'est la partition politique, économique, sociale, ethnique de la Nouvelle-Calédonie, d'autant plus qu'il existe dans le nord des...
Uniquement pour la troisième version, hein, on est bien d'accord.
Je suis toujours sur la troisième version. Donc autant qu'il y a des communes non indépendantistes en province nord et qu'il existe des communes indépendantistes dans la province sud. Et je tiens à rappeler que l'État, dont la loi référendaire de 1988, mais aussi dans la Constitution et de l'accord de Nouméa de 1998, l'État a toujours été opposé à la partition de la Nouvelle-Calédonie, quel que soit le résultat des référendums.
Donc ce projet, à votre avis, il est aussi enterré
Ce projet est aussi enterré.
Alors, l'avenant à l'accord de Nouméa, personne n'en avait parlé jusqu'à présent, c'est le projet que vous défendez.
Le projet que nous, on a défendu, c'est la souveraineté avec la France, mais pas tout de suite pour prendre en considération le résultat des Calédoniens, donc à mettre en œuvre dans quelques années, on a proposé 2050. Maintenant que cette souveraineté avec la France est enterrée par les non-indépendantistes et que l'État fédéré est enterré par le reste, que nous reste-t-il ? Il nous reste toujours une dernière voie qui est l'avenant à l'accord de Nouméa. Ça veut dire qu'on prolonge l'accord de Nouméa. Pourquoi ? Écoutez, la question du oui et du non, c'est une problématique qui réside dans notre pays depuis plus de 40 ans maintenant. Je veux dire, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur s'étaient posé aussi cette question. Il n'y avait pas de référendum organisé. Ils ont préféré dire qu'on organise un référendum. Puis en 98, au lieu d'organiser ce référendum, nos anciens, qui sont encore là pour certains, ont dit « Mais écoutez, on ne va pas faire ça maintenant. On va laisser la question trancher plus tard. » Je crois qu'il faut savoir être humble. Nous, on ne pourra pas faire mieux que nos anciens. Et donc je crois que le plus petit commun dénominateur qui a été trouvé en 98, c'est encore le plus petit commun dénominateur aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut prolonger l'accord de Nouméa. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'il faudra ajuster le corps électoral. Ajuster, ça veut dire, écoutez, tous ceux qui sont arrivés après 98, on a un tableau annexe qui contient une quarantaine de mille de personnes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Nous, on s'est déjà positionné sur ce sujet-là. On considère que les natifs, et d'ailleurs, et pas que nous considérons ça, tout le monde, et même le FLNKS, a dit le droit du sol doit s'appliquer. C'est-à-dire que tous les natifs doivent rentrer, doivent être citoyens, parce qu'ils sont nés dans ce pays.
Il y a un consensus là-dessus maintenant.
Pour l'instant, il y a un consensus sur le dégel du corps électoral, sur l'intégration des natifs, mais dans le cadre d'un accord global. Il reste une question à trancher, c'est les non-natifs. Ceux qui ne sont pas nés, mais qui ont décidé de faire cette terre leur terre. Mais dans ce cas-là, il faut mettre des critères de résidence d'abord, et puis d'intérêt matériel et moraux, ou d'autres critères qui permettent de dire « cette personne va rester en Nouvelle-Calédonie ». Donc sur l'ajustement du corps électoral, il y a plusieurs tiroirs avec lesquels on peut gérer.
L'avenant, il concerne aussi la gouvernance, j'imagine. On fait évoluer les institutions ou...
Alors, ce que je peux dire, moi, même si on n'est pas d'accord sur la décolonisation, il y a au moins quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que les institutions telles qu'elles ont été consacrées dans l'accord de Nouméa, tout le monde y tient, ces institutions. C'est-à-dire les provinces, le gouvernement collégial, le Congrès, le Conseil économique, social et le Sénat coutumier. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les faire évoluer en prenant en compte les difficultés ou les inconvénients qu'on a rencontrés pendant toutes ces années. Donc au moins sur ça, il y a un consensus global. Maintenant, il reste une autre question à traiter, qui est la question de l'autodétermination. Parce que pas d'ajustement du corps électoral sont nouvelles questions à poser à un moment donné. Eh bien, on va y avoir droit, parce que l'accord de Nouméa, il y avait un référendum au bout. Donc si on prolonge l'accord de Nouméa, on ajustera le corps électoral, il y aura un nouveau référendum. Et c'est là où on doit être malin. Et je crois que c'est ce qu'on a gagné avec Manuel Valls au conclave de Deva. C'est parce que les référendums de l'accord Nouméa nous ont opposés fermement parce que la question est une question de rupture. Les gens se sont éloignés sur la question de la France ou de l'indépendance. Mais quand on sort de Deva, en vérité, il y a deux projets qui sortent, c'est l'État associé et l'État fédéré. Pour moi, politiquement, ces deux projets sont très proches l'un de l'autre. Et je souhaite, nous souhaitons, qu'à l'issue de cette période nouvelle de stabilité, que la consultation ne se fasse pas sur oui ou non, mais se fasse sur un oui, oui à l'État fédéré, oui à l'État associé. Et dans ce cas-là, on sortirait de la logique binaire et on irait vers un référendum de projet où chacun pourra construire l'État fédéré et d'autres pourront construire la souveraineté avec la France, autrement dit l'État associé.
C'est quand même un référendum d'autodétermination déguisé parce qu'il y a un projet État associé qui est quand même un projet d'indépendance et un projet État fédéré qui est un projet dans la France.
Mais un référendum d'autodétermination, c'est juste de savoir si on reste au sein ou en dehors. Mais nous, ce qu'on propose, c'est simplement de dire que, au lieu d'être dans ou au lieu d'être sans la France, on propose d'être avec la France, ce qui est différent. Ça permet de maintenir un lien fort avec la France, parce que je crois que tout le monde a compris que sur les compétences régaliennes, toutes, excepté les relations extérieures, tout le monde a dit que ces compétences doivent être maintenues au sein du giron de l'État français. Pourquoi ? Parce que ça nous coûte 180 milliards. Un. Deux, on n'a pas de ressources humaines pour le faire. On n'est pas formé encore pour ça. Je crois que personne n'a vraiment envie, pour un tout petit pays, d'exercer ces compétences-là. Donc, les dépenses de justice, de monnaie, ça demande une grosse logistique. Et donc, il faut laisser ces compétences-là à l'État. Et nous, on essaiera de prendre des compétences ou de partager certaines compétences. Mais on pourrait prendre les compétences de relations extérieures. Ce qui est important pour nous, ce qui nous permet de signer des accords économiques et sociaux avec les pays de la région. Puis ça nous permet de grandir en tant que pays.
Cet avenant, sur combien de... Sur quelle durée il devrait exister, selon vous, avant qu'il y ait ce référendum
C'est la question la plus importante, in fine. Ce n'est pas l'avenant, l'accord de Nouméa, l'ajustement du corps électoral ou l'autodétermination. C'est la période de stabilité. Et c'est pour ça que nous, on avait proposé 2053 dans une souveraineté avec la France, parce que la période, ce n'est pas une période pour dire les indépendantistes veulent la plus courte et les non-indépendantistes veulent la plus longue. C'est la période qui permet de reconstruire notre pays. Mais ces projets ont été enterrés. Et donc là, les non-indépendantistes vont vouloir demander 30 à 50 ans. Les indépendantistes, ils vont rester sur ce qu'ils savent. Accord de Matignon, c'était 10 ans. Accord de Nouméa, c'était 15 à 20 ans. Donc à mon avis, on va rester dans ces standards-là. Mon souhait, c'est que cette période soit une période de stabilité, mais surtout qu'on sorte derrière, non pas avec une opposition, mais vraiment à choisir entre deux projets de société qui, selon moi, sont très très proches politiquement.
En attendant, il n'y a pas eu d'accord à Deva. On avait parlé au début d'une nécessité d'avoir un accord au 31 mars pour pouvoir organiser les élections. Maintenant, on dit au 31 juin, il faut une réponse. Est-ce que, selon vous, il va y avoir des élections avant novembre 2025? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait ces élections provinciales cette année?
Alors, s'il n'y a pas d'accord, d'abord, les conséquences économiques et sociales pour le pays sont désastreuses. Parce que pas d'accord politique parle d'instabilité politique, les investisseurs vont partir, les entrepreneurs qui ont vu leur outil de travail détruit, quand ils vont se faire rembourser, ils vont prendre leur argent, ils vont partir d'ici. Donc il y aura moins d'investisseurs, moins de travail, et donc tout va s'effondrer. Ce qui aura des conséquences sociales et donc budgétaires. Et nous avons prêté 1 milliard d'euros de force à la France, à l'AFD, la France est la garantie cet emprunt. On a remboursé ce que nous avait prêté la France l'année dernière, il ne reste pas beaucoup de choses. Donc on vit au fait sous perfusion de l'État français, qui demande des réformes qu'on sera incapable de faire, parce qu'on va être dans les élections provinciales, donc on aura une paralysie des institutions calédoniennes. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la situation économique et sociale. C'est l'abîme. C'est quoi les conséquences politiques? Pas d'accord? Ben, Conseil d'État s'est déjà positionné, on organise les élections provinciales avant le 30 novembre. Organisant les élections provinciales, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va sortir la radicalité, d'un bord comme de l'autre, parce qu'on va une élection à droite ou à l'extrême droite, et puis on va aller aux élections. Est-ce qu'on espère tous que peut-être que les interlocuteurs politiques vont changer? Moi, je pense que non. Je pense que non. Les grosses formations politiques, que sont les FLNKS et les non-indépendantistes, vont plus ou moins se retrouver. Il y aura un autre bloc, il y aura un bloc central, encore. Puis finalement, on aura fait les élections, comme les référendums, en espérant qu'on allait régler quelque chose. Puis finalement, ça ne va rien régler. Parce qu'au lendemain des élections provinciales, je crois que tout le monde va se retrouver autour de la table. Mais qu'est-ce qui se passe après? Parce qu'on sera au mois de décembre, on installe les institutions, le gouvernement. Tout de suite, tout le monde se replonge dans les élections, parce que les élections municipales, c'est mars 2026. Et puis après mars 2026, qu'est-ce qui va se passer? On sera à une année de l'élection présidentielle. Paris est sur l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, avril 2027, juin 2027, élection législative, il y aura l'été, il y aura la mise en place d'un nouveau gouvernement, un nouveau ministre des Outre-mer. Quand il va reprendre et réouvrir le dossier calédonien, qu'est-ce qu'on sera devenu, Elisabeth ?
Ça veut dire que vous pensez qu'il ne faut pas faire d'élection ?
Il ne faut impérativement pas aller aux élections. Et nous, nous irons jusqu'au bout, au bout, au bout, pour permettre de trouver un accord politique. Et le seul qui reste aujourd'hui, c'est la prolongation de l'accord de Nouméa.
Les élus qui ont été élus en 2019 sont encore légitimes aujourd'hui, alors qu'ils ont déjà plus d'un an au-delà du mandat qui leur avait été confié ?
Moi, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Le mandat, c'est 5 ans. C'est un mandat assez particulier. Au sens politique du terme électoraliste, il n'y a plus de légitimité depuis mai 2024. On est en mai 2025. On sera en novembre, donc on sera passé 18 mois des élections provinciales. Je pense qu'on a encore un peu de temps. Parce que l'avenant à l'accord de Nouméa, en somme, c'est pas si difficile à traiter. Moi, je veux juste que les Calédoniens comprennent bien que soit on n'a pas d'accord, et c'est l'abîme, économique, social, budgétaire et politique, mais sinon, il y a une autre possibilité, c'est prolonger l'accord de Nouméa.
Et donc, vous êtes partisan aujourd'hui, comme tout le monde d'ailleurs, semble-t-il, de reprendre les discussions après l'échec de Deva.
Impérativement. Et je crois que l'ensemble des partenaires le sont aussi, ce qui est une bonne chose.
Avec Manuel Valls, parce qu'il semble un peu déconsidéré par un certain nombre de ses interlocuteurs.
Et nous, on n'a pas de problème, on n'a jamais eu de problème avec Manuel Valls. Nous, on considère qu'il a fait un sacrifice utile pour le pays, en rapprochant les positions entre l'État associé et l'État fédéré. Je trouve que le procès qui lui est fait, c'est une déversion politique, mais moi, je ne fais pas de politique politicienne à ce niveau-là.
Mila Colatoukoumouli, merci en tout cas d'avoir été notre invité ce matin.
Merci, Elisabeth.